Vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean, eh bien, il nous est rappelé que nous sommes enfants de Dieu, que nous le sommes vraiment. Et c'est notre joie, notre bonheur que de devenir enfants de Dieu, hein, par notre venue dans ce monde, par notre création, hein, quand Dieu nous a créés dans le sein de notre mère, avec l'aide du Père aussi. Eh bien, c'est une œuvre de création par amour. Il nous a créés par amour. Mais la filiation nous est donnée par la foi et la grâce du baptême, la nouvelle naissance, où nous devenons enfants de Dieu réellement. Et ce peuple d'enfants de Dieu, eh bien, le Seigneur le rassemble en un seul peuple. Et c'est lui le bon pasteur. Hein. Il nous est aussi dit dans cette même lecture, hein, c'est lui le bon pasteur, c'est lui qui nous guide, qui conduit ce peuple d'enfants du Père. C'est le bon pasteur, et l'Évangile nous le rappelle aussi, hein, l'image du pasteur, qui est une image biblique par excellence, hein, où il y a, et Jésus le dit, hein, il y a des mauvais pasteurs dans la Bible, il y en a plein. Il y a des bons pasteurs, il y a surtout un pasteur qui est promis, qui va se réaliser en Jésus. Hein, Jésus, il va venir et va réaliser les prophéties du pasteur qu'il faudra suivre, parce que c'est l'unique pasteur à suivre, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité pour nous. Et Jésus le dit donc dans l'Évangile. Nous sommes invités à suivre Jésus, c'est notre unique pasteur, il nous faut nous le dire, nous le redire souvent, de la même manière aussi qu'il nous faut redire que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, de la même manière, c'est Jésus le pasteur de l'Église tout entière. Il le dit Jésus lui-même, les mauvais pasteurs vont lâcher le peuple quand les loups arriveront. Mais le bon pasteur, lui, ne le fera pas. Il donne sa vie et il est fidèle. Et ce bon pasteur étant Jésus, désormais, frères et sœurs, quand nous marchons dans notre vie en chrétien catholique, eh bien, nous marchons en sécurité, quels que soient les événements de la vie, y compris ce que nous voyons au sein de l'Église, y compris ce qui nous inquiète, y compris ce qui peut nous troubler. Jésus reste l'unique pasteur, celui qui restera fidèle, de la même manière que le Saint-Esprit reste l'âme de l'Église qui la protège de tout mal. Nous n'avons donc rien à craindre, même si parfois, comme le dira Saint Paul VI, dans un discours célèbre, il dira « les fumées de Satan » monte au sein même de l'Église. Ça peut arriver. Parce que, de fait, dans l'Église, il y a des enfants de Dieu, des baptisés, même des pasteurs, trop de pasteurs, hein, ceux qui ont ce rôle au sein de l'Église, qui seront infidèles et qui vont faire l'œuvre du mal. Jésus est donc l'unique pasteur et ça doit être notre sécurité, notre paix. Marchons en confiance, suivons l'Église, ayons confiance. Le Seigneur est fidèle, il conduit son Église malgré les infidélités des membres de l'Église. Donc vous le savez, Jésus a choisi des apôtres pour être ses pasteurs. Il le dit lui-même dans le même évangile. C'est l'évangile de Jean que nous avons entendu tout à l'heure au chapitre 10 et dans l'évangile au chapitre 21, à la fin de l'évangile de Jean. Eh bien, quand Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit quoi ? Il dit « Sois le pasteur de mes brebis ». C'est la preuve que Jésus confie à des hommes cette mission de conduire le peuple en son nom, même si ces hommes ne sont pas Jésus et donc ne sont pas parfaits et vont même parfois faire pécher gravement, hein, mais il n'empêche que Jésus sera fidèle au final, hein, donc nous n'avons rien à craindre. Voilà, il confie cela à des pasteurs. Saint Augustin dit « Il y a une seule tête, un seul corps, un seul Christ, et donc un seul pasteur des pasteurs. » Un seul pasteur des pasteurs de l'Église. Un seul pasteur des pasteurs et des brebis et des pasteurs sous l'unique pasteur. Ce qu'il faut, c'est toujours se rappeler l'origine. Et c'est ça notre sécurité, c'est pas les hommes, hein, évidemment. Hein, vos prêtres peuvent être infidèles, voilà, et même les évêques, malheureusement, mais voilà, il nous faut garder notre sécurité. C'est parce que Jésus est fidèle que nous pouvons faire confiance dans le mystère de l'Église et avancer sereinement. Nous prions aujourd'hui pour les vocations, hein, et nous demandons que le Seigneur suscite des pasteurs parce qu'il a voulu que ce soit ainsi, que lui, l'unique pasteur, suscite des pasteurs qui vont guider le peuple de Dieu en son nom. Et nous prions pour les vocations de prêtres et de pasteurs dans l'Église, particulièrement aujourd'hui. En ce dimanche, des journées de prière donc pour les vocations sacerdotales, nous prions aussi pour les vocations religieuses, hein, les vocations de vie consacrée. L'Église ne peut pas vivre sans la vie consacrée. Hein, c'est soit le martyr, soit la vie consacrée, c'est comme ça. Et souvent mélangé, depuis pas mal de siècles, c'est mélangé. On a les deux propositions. Mais, parce que c'est dans la même lignée de don de soi, total, radical. Et donc, c'est la vie consacrée s'est développée beaucoup à la fin des persécutions, au IVe siècle, à la fin des persécutions, la vie consacrée a explosé. Depuis, elle s'est diversifiée dans l'Église. L'Église a besoin de la vie consacrée, ne peut vivre sans la vie consacrée. Quand une Église ne donne plus de vocation à la vie consacrée, souvent elle ne donne plus de vocation non plus de prêtre, hein, eh bien, c'est qu'elle est gravement malade. Elle a une maladie comme quand on est très malade, on est au lit, on ne peut plus rien faire. Eh bien, c'est que cette Église, elle est malade, elle est au lit, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus donner quoi que ce soit. Et nous devons donc prier avec insistance pour que de nombreux frères et sœurs baptisés donnent leur vie dans la vie consacrée, soit contemplative, soit apostolique. Alors bien sûr, c'est un appel, hein, mais il nous faut prier pour cela. Le Seigneur nous demande de prier pour cela. Voilà. Et dans la vie contemplative, elle est fondamentale, la vie contemplative, dans la vie de l'Église. Voilà. La vocation contemplative et la vocation apostolique aussi, elle a été très mise à mal ces derniers temps. Ouais, beaucoup diminué le nombre de consacrés apostoliques. Enfin, de consacrés tout court d'ailleurs, mais particulièrement les consacrés apostoliques. C'est une vocation très malade aussi. Et il nous faut prier pour qu'il y ait beaucoup qui se donnent, en particulier pour les plus petits, les plus pauvres. Hein, souvent, dans la vocation apostolique, il y a cette mission d'aller s'occuper des plus petits, des plus pauvres. Et c'est une grande grâce, une grande joie. Prions donc que le Seigneur suscite des vocations, hein, que des jeunes entendent cet appel. Et prions pour que nos familles soient la condition favorable pour que ces vocations naissent. Donc ça me fait arriver à la troisième grande étape de vie. Hein, c'est la vie dans le mariage. Je cite le pape Benoît XVI. N'oublions pas ensuite que le mariage chrétien est lui aussi, à plein titre, une vocation à la sainteté, à l'exemple de parents saints, et que l'exemple de parents saints est la première condition favorable à la floraison des vocations sacerdotales et religieuses. Oui, la vocation de chrétien, la vocation de famille chrétienne, c'est ce qui permet l'émergence des vocations. C'est aussi une vocation à part entière, avec ses exigences, cet appel à la sainteté radicale, avec ses croix aussi. Les époux, les familles sont invités à vivre dans un attachement intime au Seigneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les paroisses, c'est un appel que nous, prêtres, nous sentons très fort de stimuler la sainteté des couples, des familles, des enfants aussi, à tout âge. On peut être saint à tout âge. Nous sommes très interpellés par le Seigneur. À d'autres périodes de l'histoire de l'Église, il semblerait qu'on en parlait peut-être moins. Bon. Mais nous sommes aujourd'hui, et aujourd'hui, il est clair que le Seigneur appelle très fortement les couples et les familles à la sainteté, et à répondre à leur vocation. Voilà. Cette vocation est un appel radical, tout aussi radical que les autres vocations, mais dans une forme différente, avec des modalités différentes. Donc répondez à votre vocation. Ceux qui sont donc époux, parents, parfois époux sans enfants, parfois veufs, parfois célibataires non engagés dans une vie consacrée, sont invités en tant que baptisés à vivre leur cheminement chrétien et à répondre à leur appel à la sainteté, à être vraiment des brebis du peuple de Dieu, des membres à part entière du peuple de Dieu et à jouer leur vocation. Les chrétiens, hein, les laïcs chrétiens, sont insérés de façon particulière dans la vie de la société et doivent y prendre leur place. Ça fait partie, c'est un des éléments de l'appel du chrétien, c'est d'être dans la société une lumière et un ferment. Je voudrais souligner aujourd'hui l'importance de l'engagement social et politique de tous les laïcs chrétiens pour le bien commun, le bien de la société, et pour faire advenir le royaume. Il ne faut surtout pas que nos communautés chrétiennes se renferment sur elles-mêmes, comme s'il fallait simplement nous sauver, construire un petit château, une citadelle, et puis ensuite laisser le monde autour de nous s'effondrer. Ce n'est pas ça notre rôle. Ce n'est pas ça notre vocation. Parmi les associations, il y a une association que vous connaissez sans doute, mais je tiens à souligner, ils vont se présenter à la fin de la messe, ils tiendront un stand dehors à la fin de la messe, c'est les associations familiales catholiques. C'est une façon simple, mais efficace, de s'engager dans la société, de permettre à ce que la voix catholique, la vision catholique du monde et de la société puisse être entendue par les plus hautes instances politiques. Cette association aussi permet d'aider les familles, de donner des moyens pour aider les familles à exercer, à vivre leur vocation et à répondre à leur appel. Voilà, ils se présenteront à la fin. Voilà donc les vocations sacerdotales, vocation à la vie consacrée, vocation au mariage. Tous les laïcs chrétiens, tous nous sommes appelés à marcher et à avancer dans... à réaliser que nous avons une réelle vocation. Aucun d'entre nous n'a pas de vocation. Ça n'existe pas, ça. Il faut se demander quelle est ma vocation. Depuis quelques années, nous assistons à un réveil des vocations sur notre diocèse. On s'en réjouit. 16 séminaristes, bientôt 3 ou 4 vont être ordonnés diacres en vue d'être prêtres en septembre prochain. Ils seront prêtres dans un an. Grâce au dynamisme du service des vocations, je profite que le Père Jean-Marie n'est pas là pour en parler, vous ne lui direz pas, hein. Que sinon il va se... Voilà. Grâce au dynamisme du service des vocations, nous avons la chance d'avoir un prêtre engagé pratiquement à plein temps. C'est très rare dans un diocèse. Nous avons un prêtre pratiquement à plein temps engagé pour le service des vocations, aidé et accompagné de nombreux bénévoles. D'ailleurs, je les remercie, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous. Les cycles Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II et les cycles Sainte-Thérèse, mis en place il y a presque 10 ans, je ne me souviens plus combien de temps déjà, portent de nombreux fruits. Et ont permis d'avoir davantage de vocations dans notre séminaire diocésain, mais aussi au-delà. On a suscité des vocations, il y a des vocations religieuses qui sont parties chez les garçons aussi, et puis chez les filles aussi. Le cycle Sainte-Thérèse a produit, et j'en suis témoin émerveillé aussi, hein, des vocations de jeunes filles qui se donnent et qui rentrent dans les ordres. Il y a plusieurs intuitions qui sont à la source de cette démarche, de cette proposition de service des vocations. Je regarde ma montre, mais... Donc, j'en souligne simplement 3. La première chose que je veux vous partager, parce que je vais partir bientôt de la paroisse, donc je dis des messages. Première chose, c'est envisager la vocation de façon décomplexée. C'est-à-dire qu'on a tous une vocation, il ne faut pas que ça fasse peur. Il faut en parler simplement. Être appelé à être prêtre, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la catastrophe d'une famille. Être appelé à la vie consacrée, c'est la même chose. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau pour la communauté chrétienne, c'est un cadeau pour nos familles. Il faut en parler très simplement, il faut se renseigner, découvrir, s'émerveiller devant la beauté de ses vocations. Il faut sortir de la peur d'un Dieu qui ne nous voudrait pas heureux et qui nous appellerait à la vocation alors qu'on ne veut pas. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est le démon. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Le Seigneur, il appelle des gens pour les combler. Et c'est un chemin de bonheur, évidemment. Ou bien une église qui supprimerait la liberté de ses enfants pour les pousser dans un mauvais sens, dans des vocations qui les rendront finalement tristes et malheureux. Ça aussi, il faut supprimer c'est une tentation, il faut supprimer ça quand ça vient dans notre tête. Ça ne vient pas de Dieu. Première chose, parler de la vocation de façon décomplexée. Deuxième chose, oser interpeller. C'est lié à la première, évidemment. Tout chrétien voulant vivre sa foi doit discerner sa vocation. Il y a un âge pour cela, évidemment. Même si à tout âge, on peut réfléchir sur sa propre vocation. Mais tout chrétien qui aime Jésus, qui veut suivre Jésus, doit discerner sa vocation. Car toute vie est une vocation, c'est un appel à la sainteté dans un état de vie spécifique. Et si Dieu est vivant, si Jésus est vivant, il nous parle, et s'il nous parle, il faut l'écouter. Et la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est de l'entendre et d'y répondre, « Oui Seigneur, que ta volonté soit faite. » Osez interpeller, osez en parler autour de vous, osez dire à des jeunes, « As-tu pensé à la vocation ?» C'est pas la honte. Et puis enfin, toute vocation est un appel à s'offrir à Dieu. L'Eucharistie est au centre de la vie chrétienne. Dans l'Eucharistie, Dieu donne tout, et nous sommes invités, nous aussi, en retour à tout donner. Et donc, c'est notre vocation, ça résume vraiment notre vocation de baptiser, quels que soient nos états de vie, tout donner, s'offrir à Dieu en Jésus-Christ grand prêtre. Il faut donc découvrir de quelle manière on doit s'offrir dans la vie. Alors, s'offrir et souffrir, c'est deux mots très proches, mais parfois ça va ensemble. Pas toujours, je vous rassure. Enfin, vous le savez. De quelle manière on doit s'offrir ? D'où l'importance de la messe au centre de la vie chrétienne, du sacerdoce ministériel, le prêtre qui va permettre que la messe, que Jésus intervienne dans la messe. Nous ne sommes heureux, réalisés et saints que dans le don de nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin de bonheur réel. On peut avoir des plaisirs, mais pas des bonheurs. Nous avons tous une vocation au don de soi. Malheureusement, et c'est pour cela que je souligne cet aspect-là, nous sommes atteints par une maladie. On a dit la maladie du don, c'est-à-dire la maladie de celui qui veut plus donner. Surtout pas. L'individualisme nous joue des tours et on a toujours peur de se donner et de se perdre. Pourtant, Jésus l'a bien dit, qu'il faut se perdre pour le trouver, pour tout trouver. On se donne facilement, parfois, dans une prière, et on se reprend le lendemain aussi très facilement et encore plus facilement souvent. Voilà, j'ai été trop long, je suis désolé. Voilà, que le Seigneur nous stimule dans la prière pour les vocations et surtout d'oser croire qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle de nombreux d'entre nous et que nous sommes tous appelés à notre manière. Amen.